enfin moi ce que j'ai plus à cœur c'est le rapport humain avec avec les gens quoi. Enfin on a plus le temps de prendre son temps pour travailler, pour expliquer, pour rencontrer les personnes. On n'est pas uniquement là pour changer de la pièce et faire entrer de l'argent le plus possible. C'est pas une démarche qui est du tout inscrite dans un truc de capitalisme pur, avec l'idée de marger sur les pièces, de marger sur la main-d'œuvre, enfin tu vois, de faire un max de pognon. C'est pas ça l'idée ici, quoi.
L'idée, c'est quoi ?
C'est de prendre le temps d'expliquer aux gens ce qui se passe sur leur voiture, d'essayer de trouver les solutions, on va dire, alternatives à des échanges de pièces quand on peut, ou de réparer les véhicules avec des pièces qui sont pas trop chères, qu'on va plutôt trouver sur Internet, plutôt que chez des gens qui vont marger toujours à 80% sur le prix. Tu vois, des fois, c'est un paquet de vis, mais quand tu trouves un paquet de vis qui est de la même marque, de la même référence, qu'à 15 euros, et que chez le concessionnaire ou chez le revendeur de pièces, on te le fait à 100 euros, bah, tout de suite, tu vois, tu te rends compte qu'effectivement, il y a de l'abus là-dessus, quoi.
Mais justement, les voitures, elles sont de plus en plus construites pour que surtout, on puisse absolument pas s'en occuper soi-même. Genre, ouais, certains modèles, faire une vidange soi-même, on dirait que c'est fait exprès, que ça soit très très compliqué.
Je pense que c'est un peu le but aussi.
Usager du garage, voisin.
Usager courant. C'est que les gens repartent en sachant faire leur vidange, en sachant changer un pneu, c'est pas forcément évident pour tout le monde, qu'ils repartent du garage avec des connaissances aussi, qui s'aperçoivent qu'ils peuvent faire toute une partie de l'entretien courant de leur voiture eux-mêmes. Et si on leur montre pas au moins une fois, on sait pas forcément changer le filtre à air, le filtre à huile, vérifier régulièrement la pression des pneus ou le niveau d'huile. Je pense que le but du garage, il est aussi comme ça, c'est que les gens apprennent la mécanique de base.
Jusqu'à présent, on avait un tarif classique où on s'est aligné en fait de manière à pas pouvoir être taxé de concurrence déloyale sur des tarifs garage normaux. Et un tarif en autoréparation, les gens viennent et sont accompagnés sur la réparation de leur véhicule. Et là, c'est un tarif qui est à 30 euros de l'heure. Du coup, c'est des tarifs de formation, mais qui sont calculés sur des temps de main-d'œuvre donnés par les constructeurs, c'est les temps constructeurs. Après, c'est vraiment en fonction des chantiers, on voit si vraiment ça représente un coût trop important. Tu vois, en tant que constructeur, on essaye de faire aussi, par exemple, du forfait journalier. Ça, c'était le fonctionnement qu'on avait adopté l'année dernière. Là, cette année, on est vraiment dans une autre optique, c'est-à-dire de plus du tout de faire de prestations, parce qu'en fait, l'idée du garage, l'idée de la formation, de l'autoréparation, et l'envie qu'on a aussi que les gens s'investissent dans l'asso, c'est pas de faire du garage, c'est pas de faire de la prestation du tout, en fait. Nous, on est là pour faire de la formation, on n'est pas là pour faire uniquement de la mécanique, et que la démarche soit pas purement économique de la part des gens qui viennent, qui nous laissent leur voiture, et puis qui reviennent la chercher. C'est pas du tout l'idée de l'asso. Il y a aussi ce qu'on voudrait faire, par exemple, pour des gens qui peuvent pas, ou on a le cas, par exemple, des personnes âgées, à qui on va pas demander d'aller mettre les mains dans le moteur. On a quelques adhérents comme ça, des petites mamies de 70 ans, si elles ont un problème d'essieu arrière, on va pas leur demander de changer l'essieu à l'arrière, quoi. Ça paraît évident. Puis elles ont pas vraiment du tout l'envie de le faire non plus, donc voilà. Il peut aussi y avoir une notion d'échange de compétences ou tu vois, de bénévolat dans l'asso à ce moment-là, c'est-à-dire les gens font quelque chose d'autre dans le lieu qui rend service en fait à l'asso et au collectif, quoi. Soit ça, soit un échange de compétences, c'est-à-dire quelqu'un qui par exemple a une compétence particulière qui va pouvoir mettre au service de l'asso. On a le cas de Ben là qui est à côté de nous, qui par exemple lui est plus sur de la communication, du graphisme, du support pour de la pub ou tu vois, de la com. Bon lui c'est sa manière d'échanger avec l'asso, quoi.
Vous êtes dans le magazine de Radio Vassivière et vous écoutez Cédric, mécanicien au garage associatif de Lasselle.
Tu peux parler un peu de ton parcours, parce que tu as appris la mécanique dans les champs, sur le terrain.
Ouais, dans les champs, non, j'ai évité d'être vraiment trop dans les champs, quand même. Et le parcours, c'est... Je suis autodidacte en fait à la base. J'étais pas mal sur dans le milieu, on va dire de la fête, où il y a beaucoup de camions. Donc j'ai appris un peu comme ça en fait, en réparant les camions des copains à droite à gauche, puis en refaisant aussi mes camions. Et ça c'était au départ. Après je me suis retrouvé un petit peu dans le milieu du cirque. Du coup bah là c'est pareil, je me suis retrouvé aussi à entretenir les parcs poids lourds, les trucs comme ça. Et à terme, en fait, pour valider tout ça, au bout d'un moment, j'ai fait une formation qui est diplômante, qui me permet de pouvoir exercer.
Alors là, c'est le grand luxe, là, à côté des réparations que tu as dû faire. Là, donc, on peut peut-être visiter un peu le lieu, quand même. Ouais, Le bâtiment qu'il faut, tous les outils qu'il faut, c'est royal, non?
Ouais, c'est mieux que d'être dans les flaques d'eau avec une bâche au-dessus d'un capot, c'est sûr.
Alors, montrez-nous ce que vous avez. Parce que là, on est juste dans le bureau qui ressemble à peu
ici,
près à n'importe quel bureau.
Ouais,
la salle commune.
C'est une salle commune.
Avec une imprimante, la Wi-Fi, la cafetière. Mais nous allons dans la partie garage. Avec un berlingot qui va pas très bien.
Ouais, là, tu vois, c'est le coin où on a les outils pour les pneus. Donc, il y a une équilibreuse et puis il y a des bons pneus. On apprend un peu aux gens à se servir de ce truc-là. Là, on est...
On peut se couper les doigts,
là, là, on est vraiment sur de l'accompagnement. On est vraiment là, parce que c'est quand même des machines qui sont un petit peu dangereuses. Si on fait pas gaffe, on peut sérieusement s'enlever des morceaux. Donc,
pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident grave.
Non, il n'y a pas eu d'accident du tout. On n'a pas eu ce cas de figure encore, heureusement. Mais bon, de toute façon, c'est une machine à pneus. Si tu t'en sers pas comme il faut s'en servir, tu déchires ton pneu. Enfin, c'est très facile de déchirer un pneu avec une machine comme ça. Donc, t'as tout le pan pneumatique.
On peut venir avec sa roue, ses pneus neufs.
Ouais, bien sûr.
Acheter pas cher sur internet et les mettre ici.
Ouais. C'est comme ça qu'on fonctionne, grosso modo, quoi. Puis nous, on fait pas mal de conseils aussi à l'achat. On essaie de trouver les bons prix et si possible, de monter quand même des pneus de qualité. Tous les gens ne sont pas forcément convaincus de cette idée-là. Moi, je le suis quand même. Un pneu Michelin, ça sera jamais l'équivalent d'un pneu chinois en niveau tenue de route, confort, durabilité, tous ces trucs-là, quoi. Ça, c'est des trucs très techniques.
Et puis, le pneu bas de gamme, on va le changer plus souvent.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, tu t'y retrouves pas. Donc, c'est aussi sensibiliser les gens à ça, de dire, écoute, ouais, là, tu vas gagner 15 euros à ce moment-là. Sauf que si dans 6 mois, tu reviens avec une autre paire de pneus, si tu avais pris, quelle que soit la marque, finalement, une qualité un peu supérieure, tu serais peut-être pas là au bout de 6 mois, quoi. Bon, après, il faut s'adapter au contexte, à l'utilisation du véhicule aussi. T'as des gens qui font beaucoup de route, t'en as qui font que de la petite route sur le plateau, tout un tas de cas de figure différents, donc fait avec ça aussi, quoi.
Et qu'est-ce que vous faites avec les... Là, on a un Citroën Berlingo qui est très malade, il a plus d'avant, plus de moteur.
Non, lui, il a le nez cassé, en fait. Donc, avec
une épave.
On voit les longerons qui sont complètement tordus, donc il est récupérable. Enfin, c'est un véhicule qui est marbré, on dit. Donc, t'as la structure même du véhicule qui est tordue. Donc là, à ce moment-là, nous, on arrête. Il y a un moment, on essaye de dépanner, mais il y a un moment, on rentre pas non plus dans ce... Ça représente un travail qui est absolument monstrueux. C'est quelqu'un qui nous a laissé son véhicule, et puis, du coup, on a démonté toutes les pièces, et petit à petit, elle revend ses pièces, petit bout par petit bout, de manière à essayer de récupérer un peu de sous pour pouvoir se racheter un autre véhicule, quoi. Donc voilà, mais c'est le petit pont qui était là au départ, dans le petit local que certains ont connu. Voilà.
Nous entendons justement un des deux grands ponts.
Ouais, qui est assez bruyant, on peut dire, mais voilà. Après, derrière, t'as un vieux compresseur d'époque. Voilà, un vieux Cresson sac qui doit avoir sa petite quarantaine d'années, tranquille, bien tassé, et qui fonctionne toujours. L'air comprimé dans un garage, c'est juste vital, quoi. Donc il y a ça, là il y a une perceuse à colonne.
On entend justement le compresseur, je crois, voilà. Si on nous entend encore.
Là il y a une perceuse à colonne qui n'est pas encore branchée, qui est... donc ça c'est du matériel qui est amené en fait par les gens, pour le coup ça c'est moi qui ai ramené ce truc là. Là par contre on va pas s'entendre, ça va être enfin, et ça dure une plombe.
C'est le compresseur qui se recharge.
Ouais, ça dure vraiment un moment, mais je crois qu'ils ont fini.
Vous avez fini, hein?
Ouais.
Il Alors il avait quoi cet utilitaire Fiat qui ressort?
Vidange, filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil.
Et là donc tu répands de la sciure. Est-ce que vous polluez un peu quand même?
On pollue pas, c'est dans un garage, t'as forcément des fluides qui tombent par terre quoi. Après bah tu vois, voilà, on met de la sciure, hein, c'est une méthode alternative à l'absorbant. Donc après oui, un garage, c'est pas l'endroit où tu pollues le moins sur Terre, hein. Inévitablement, on est quand même amené à travailler avec des fluides. Enfin, tout ce que tu peux trouver dans un véhicule, dans une bagnole ou un camion, c'est pas les trucs les plus sains qui existent, quoi. Ça c'est sûr. Donc voilà, après, qu'est-ce que t'as d'autre? Donc, du coup, là-bas, il y avait la colonne. Là, on a un poste à souder, on a un oxy. Acétylène, l'oxyacétylène, donc ça permet de souder très très chaud. C'est plus fait pour braser. Bon, là pour l'instant il est posé, il n'est pas en service, mais on fait des choses petit à petit. On récupère le matos petit à petit.
Pour éventuellement réparer des pièces vous-même, des pièces métalliques.
Ouais, faire de la soudure brasée, ça peut être très très pratique. Et aussi, on est souvent amené à chauffer pour enlever des pièces. Pour dégripper des pièces, en fait, tu chauffes pour dilater le métal et du coup, bah voilà, tu te sers de cet outil qui va très très bien, qui chauffe très très fort. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as le récupérateur d'huile de vidange. Bon, ça c'est le standard. Et on a un poste à souder aussi, qui lui, par contre, est en fonction. Là, c'est un MIG. On soude au gaz, en fait. Avec ça, ça permet de faire pas mal de carrosserie. C'est plutôt pas mal. Là, t'as le cas à côté d'un véhicule qui est en train de se faire reprendre en carrosserie. On peut dire très sérieusement. Il n'y aurait pas ce poste-là, c'est sûr que le chantier n'aurait pas pris cette dimension-là non plus, quoi, je pense. Voilà.
Mais plus on a d'outils, plus il y a de chantiers différents dans le garage.
Ouais, bah, plus les possibles ils sont grands, quoi. C'est clair. Hein.
Et vous devez quand même assurer une sorte de rotation, parce que si on a vous avez trois ponts. Vous avez trois véhicules gravement endommagés en même temps qui demandent semaine de travail, plus la commande des pièces, etc. Ouais. Comment vous organisez tout ça?
Bah, on s'organise, comme tu dis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer. On essaie de toujours avoir un pont de libre pour les interventions quotidiennes, quoi. Et les rendez-vous d'adhérents qui viennent au quotidien. Parce que, ouais, effectivement, c'est vrai que quand tu as une voiture comme le Berlingot qui est là, qui est complètement écrasé, bon, lui, ce petit pont-là, on ne s'en sert pas énormément. Donc, c'est pas trop gênant. Après, le deux colonnes qui est là, bah oui, clairement, lui, on essaie de l'avoir libre quasiment en permanence parce que lui on s'en sert vraiment tout le temps, quoi. Et le 4 colonnes un petit peu moins, mais on s'en sert quand même pas mal parce qu'il a d'autres options. Donc puis c'est pas pour les mêmes utilisations non plus, quoi. Lui permet de soulever quand même assez lourd, on peut mettre les camions dessus. Bon, la structure même du garage nous permet pas de prendre des véhicules trop gros non plus, parce qu'en fait
c'est on touche la charpente si on monte un camion très haut.
Le souci est là, en fait, c'est un bon gros souci qu'on a, c'est la structure même du garage. Il faudrait qu'il soit plus haut, en fait, pour que le 4 colonnes, en tout cas le 2 ça pose pas de souci, mais sur le 4 les gros utilitaires rehaussés on peut les lever d'à peine on va dire 50-80 cm, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est un peu c'est pas très pratique, quoi.
C'est une limite.
Ouais, on a cette limite là.
Et dans les machines que vous n'avez pas encore, il y a des choses que vous n'avez pas encore bien d'avoir?
Principalement, ouais, c'est une presse hydraulique. Pour l'instant, on n'a pas de presse, donc ça, c'est vrai que c'est super handicapant pour tout ce qui est roulement, notamment. Emmanchement de pièces, quand même en force.
C'est prévu, vous avez encore?
Ouais, bien sûr, c'est prévu. On avait lancé l'année dernière un crowdfunding pour le développement global du garage. Cette année, on est en train de réfléchir à se dire, est-ce qu'on ferait pas ça plus juste pour un outil, que ça parle plus aussi aux gens sur cette démarche-là, de dire, bah voilà, on lance un crowdfunding sur, admettons, 1500 euros ou tu vois, 1000 euros, et juste pour cet outil. Et cet outil permet de faire tout ça derrière. Et
alors, une presse hydraulique, elle permet de réparer quelles pièces, par exemple?
Bah, ça permet surtout de remancher les roulements.
Dans les roues, donc.
Ouais, sur tout ce qui est moyeux, tout ça. Ça porte bien son nom, hein, ça sert à presser, donc tout ce qui a besoin d'être pressé pour être extrait ou emmanché, et bah, avec une presse, ça permet de travailler vraiment nickel sans, par exemple, que de le faire à, on va dire, à la méthode parking, c'est-à-dire avec une masse et de taper dessus pour emmancher. Même en faisant supérieur, on peut le faire, hein, moi je l'ai fait pendant longtemps, et effectivement, faut s'appliquer, faut faire gaffe, faut pas y aller comme une brute, ça peut se faire, mais c'est franchement pas idéal, quoi. C'est clairement, c'est plutôt du dépannage que, même si derrière ce qu'on a fait, ça fonctionne et ça tient, et c'est quand même beaucoup moins confort de fonctionner comme ça qu'avec une presse où là, bon, quand t'as 30 tonnes qui poussent un bout de ferraille pour mettre un bout de ferraille dans un autre bout de ferraille, c'est quand même plus cool, quoi.
Comment vous faites face au fait que de plus en plus de voitures, enfin peut-être même toutes, je suis pas très au courant, quand on les ouvre, il faut en fait un ordinateur, quoi, pour se connecter, et donc des codes, des logiciels et des trucs propriétaires qui nous empêchent de nous en occuper nous-mêmes. Comment vous faites face à ça, vous aussi, au garage associatif de La Selle, parce que je rappelle qu'on est au garage associatif de La Selle.
On fait face à ça avec une bouteille d'essence et une allumette. Non, c'est une blague.
Ça te donne envie de...
Ouais, non, moi je suis pas du tout un adepte des nouveaux véhicules qui sont vraiment... où t'as toute l'obsolescence programmée depuis, on va dire, le début des années 2000 qui a été mis en place, avec des véhicules qui sont plus réellement faits pour rouler longtemps. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Mais bon, ça se vérifie quand même... Pas systématiquement, mais presque.
Mon casque son est pété, je l'ai que depuis un an. C'est pile le temps de la garantie, c'est ouf. Le SAV s'en lave, les mains, je l'ai dans l'os. Comme quand le dealer t'esprouf. Mais le pire du pire de l'obsolescence, c'est tout ce que tu topes au shop de bricolage. Les outils, les matériaux, c'est pas que t'as pas de chance. C'est que tout est fait pour lâcher après trois usages. C'est cassé, faut racheter, mais quand t'as pas les housses, tu t'habitues au matos et au sable de cassos. C'est cassé, faut racheter, c'est des amas des housses pour que leurs produits tiennent juste pas plus. Obsolescence programmée. T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt. Obsolescence programmée. Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto. Obsolescence programmée. T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt. Obsolescence programmée. Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto. L'électroménager, les trucs pour la maison ont une durée de vie fixée par les fabricants. C'est ce qu'on appelle pousser à la consommation. Les conséquences, ces types s'en battent les flancs. Rien à foutre de la logique, rien à foutre du climat. Rien à foutre des collines de déchets au Ghana. Rien à foutre de ce qui nous reste à la fin du mois. Si ton truc est HS, eh ben t'en rachèteras.
Si ton truc est HS, eh ben t'en rachèteras. Si ton truc est HS, eh ben t'en rachèteras. Si ton truc est HS, eh ben t'en rachèteras.
Mais j'espère qu'un jour sera interdite dans tous les pays cette technique de gâchis calculé. Alors on pourra dire que le morceau que t'entends était aussi à obsolescence programmée.
Obsolescence programmée.
T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt.
Obsolescence programmée.
Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto.
Obsolescence programmée.
T'as tout qui est pété tôt, t'as tout qui est pété tôt.
Obsolescence programmée.
Pour la date de Pinocchio, demande à Geppetto.
Très peu de véhicules finalement très récents. Le peu qu'on a eu, c'était sur des entretiens courants parce que c'est des véhicules qui n'avaient pas des kilométrages élevés. Les adhérents ici sont plus sur des véhicules qui ont quand même au minimum une dizaine d'années, on va dire, entre 10-15 ans, voire même souvent plus ouais, les années 90. Donc là, on est sur des mécaniques qui restent fiables et hyper simples. Donc là-dessus, c'est agréable de travailler. C'est vrai que sur les voitures, maintenant, où tu ouvres le capot, et tu vois même plus le moteur. Et ton seul moyen d'intervenir, c'est de brancher la valise pour savoir ce qui se passe. Bon, c'est un autre pan du métier. Moi, c'est un pan dans lequel je suis pas du tout spécialisé. Et c'est pas mon cheval de bataille du tout, quoi. Bon, après, on fait face à ça avec une valise. Voilà, on a une valise qui est universelle. C'est pas une valise, on n'a pas une valise constructeur. Mais c'est une valise universelle qui nous permet quand même de rentrer dans les calculateurs et puis de voir un peu ce qui se passe, et au moins de relever les codes défauts. Et tout ça, ça permet quand même de cibler, en fait. Après, en cherchant un petit peu, on trouve les pannes. Bien souvent, les codes défauts, ils sont assez généralistes, donc ils vont te donner des pannes sur différents organes de la voiture. C'est là-dessus que, par exemple, des gens, t'as pas mal de monde, même énormément de gens, qui se retrouvent à avoir changé la moitié des capteurs de la voiture avant de trouver la panne. Et ça, c'est des cas de figure que tu vas trouver chez les garagistes, où les gens disent « Ouais, mais il m'a arnaqué, il m'a fait... » Mais en même temps, il y a des fois, on sait pas, quoi. Donc... voilà. Après, les pièces électroniques peuvent se tester avec un mètre. Tu peux vérifier un peu. Tu peux vérifier si la pièce est encore fonctionnelle ou pas. Mais c'est souvent beaucoup de taf, en fait. Et c'est vrai que dans les garages, la plupart du temps, ils prennent pas le temps de le faire. Ils changent la pièce directement. Et puis voilà, quoi.
Donc c'est un système qui est fait pour que seuls les mécaniciens de la marque, de la concession, je sais pas, prenons Peugeot par exemple, aient accès au bon code et au bon diagnostic électronique, c'est ça ? C'est fait exprès pour qu'on puisse pas aller dans un garage.
Non, je pense pas que ce soit fait exprès. C'est pas, à mon avis, c'est pas une volonté. Il y a une volonté, ouais, effectivement. Mais je crois que ça va aussi, ça va de pair, en fait, avec les nouveaux moteurs qu'ils font maintenant, qui sont des 1,5 litre, qui font 110 chevaux, avec des turbos qui sont surboostés de partout, avec les capteurs, les turbos, les injections, les tous ces trucs-là. Et en fait, bah, tout ça, ça peut pas être géré autrement qu'électroniquement. Tu prends une vieille 309 des années 90, t'avais une pompe à injection, je parle pour un diesel, t'as une pompe à injection des injecteurs, terminé, quoi. Enfin, il y a une électrovanne, un aimant, t'allumes, enfin, c'est un le diesel de base, il n'y a pas ce type de panne là, tu t'as pas besoin de gestion électronique dessus, ou très peu, sur les véhicules qu'ils font maintenant pour atteindre les normes, parce que tout ça va aussi, je crois, ça c'est dans mon idée, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est qu'ils mettent tellement de normes, pollution avec les normes Euro 5, 6, 7, 8, toutes ces normes-là. On a eu le cas aux infos là, l'année dernière, je crois, c'était Volkswagen qui s'est fait allumer là-dessus, qui était en fait beaucoup plus polluant. Ils avaient juste mis une puce qui trompait, en fait, qui trompait les valises. C'est tout dans cet espoir-là qu'ils font ça, c'est de se dire, bon, bah, ce qu'il faut, c'est qu'on ait le moins de pollution à l'échappement possible, en augmentant, si possible, les performances. Bon, bah, du coup, ils te font des moteurs que moi, je considère pas fiables. Voilà. Bon, après, c'est mon point de vue, mon avis, d'autres seront pas forcément. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça. Mais bon, ça se vérifie quand même assez régulièrement, quoi.
À propos de normes, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du contrôle technique qui va arriver en mai 2018, là, qui a quand même pour objectif de recaler énormément de vieilles voitures, peut-être aussi de faire acheter aux gens des voitures plus récentes, officiellement de lutter contre l'insécurité et la pollution, bien sûr, mais comment tu t'es plongé un peu dans ce nouveau contrôle technique ?
Ouais, je me suis pas plongé dedans, non. Après, on en discute avec les gens des contrôles techniques, forcément, parce qu'on est souvent amené à les rencontrer. Il faut se méfier quand même des effets d'annonce. T'as quand même les effets d'annonce ils aiment bien créer une espèce de peur. Moi, je me demande si, en même temps que cette mise en place du nouveau CT, enfin l'uniformisation au niveau européen de ce contrôle technique, qui finalement commence sérieusement à ressembler au contrôle technique poids lourd, c'est-à-dire avec le système de véhicules refusés avec interdiction de circuler, enfin ils vont vraiment passer sur ce système-là, qui est déjà appliqué dans le poids lourd depuis très longtemps. différents. Bah, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, là, il va y avoir un gros pan, c'est sur la carrosserie. C'est tout ce qui est corrosion. Apparemment, ça va plus passer. Et là, c'est vraiment le moyen d'éradiquer, en fait, le vieux parc. C'est clairement leur but. C'est d'éradiquer le parc, l'ancien parc, parce que je pense que ça les intéresse pas d'avoir des véhicules qui sont réparables par les gens, sur lesquels il y a de la pièce d'occasion, enfin, c'est où on est vraiment sur un système, sur une économie quasi parallèle au niveau de la réparation et de la capacité d'entretien de son véhicule. Après, quand tu les écoutes et qu'ils te disent qu'ils veulent promouvoir l'éco-responsabilité, tous ces trucs-là, mais qu'à côté de ça, ils veulent virer le vieux parc qui est entretenable et qui est soi-disant polluant, mais au jour d'aujourd'hui, ils font des véhicules qui sont non polluants avec des FAP, où finalement, ils envoient de la sérine pour nettoyer le FAP. Le FAP, c'est le filtre anti-particules, donc c'est lui qui stocke en fait toutes les particules. Mais sauf que de temps en temps, le FAP il est bouché, donc en fait ils envoient de la sérine dedans. C'est un produit, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils envoient un produit dedans, il faut monter à, je crois, c'est 2 ou 3 000 tours sur plusieurs kilomètres de manière à décrasser le FAP. Donc à ce moment-là, quand tu es derrière le véhicule qui fait sa régénération, je te garantis que les particules, tu les manges pareil, quoi. Donc en fait, c'est une espèce de foutaise, c'est juste pour passer, c'est pour passer à la pollution et en sortie de chaîne de fabrication. Là, ils ont des véhicules non polluants. Pas certain que ça soit réellement non polluant, et un véhicule qui a 200, 250 000 est complètement hors d'usage et qui doit du coup être retraité. Je pense que si on fait le global de l'impact, c'est pas très cohérent.
On parlait de pièces d'occasion et de parc. Justement, ici, y en a un qui grandit un peu, un parc. C'est le parc des voitures qui sont arrivées au garage associatif de la Selle. Et qui sont toujours là, bonjour, et qui vont peut-être rester longtemps vu leur état. Là, il y a donc une petite vingtaine de véhicules qui est là pour pièces. Vous savez pas trop quoi en faire. On est juste à côté de la voie ferrée là.
On a principalement du véhicule qui est là pour pièces. Ouais. C'est des véhicules qu'on retapera pas, mais qui par contre sont des banques en fait de pièces qui peuvent dépanner un peu tout le monde. Ça évite de monter à Limoges ou de descendre à Brive ou Tulle pour aller chercher de la pièce en casse, quoi. Si on peut dépanner les gens avec ce qu'on a sur place, c'est quand même pratique. C'est un peu l'idée.
En fait, on a un petit peu la bonne voiture des années 80-90, là.
Là, là, t'es exactement dans le schéma type 4L, de ce qu'on affectionne.
406, ça va peut-être même plus récent. Renault, je sais pas quoi. 2-3 camions, 206. On n'a pas une seule 205 parce qu'elle roule trop bien.
Les 205, puis elles commencent à devenir assez rares.
Je me suis séparé de ma 205 que j'avais depuis presque 15 ans, mais qui roule encore. Pour ça que je parle de ça.
D'accord. Ouais, non, on n'a pas de 205, ça viendra sûrement.
De la 4L par contre, ouais.
4L, il y en a un petit peu, ouais. C'est des super petites bagnoles. Qu'on aimerait bien restaurer, puis éventuellement, un jour sûrement, envoyer sur le Camel Trophy, monter une équipe, un groupe qui pourrait partir sur le Camel. Ça pourrait être marrant, quoi. Ça, c'est un peu de l'ordre de l'utopie, du rêve, quoi, on va dire. Déjà, si on arrive à les retaper, puis que ça peut servir. Tu vois, par exemple, je discutais là avec un collègue des contrôles techniques, il me disait, effectivement, une 4L, avec le nouveau contrôle technique, si t'as une 4L en bon état, tu seras jamais emmerdé, quoi. Tu vois, il part un peu de ce principe-là, parce que là, il y a énormément de voitures qui n'ont pas forcément de panne, mais qui ont des voyants allumés, qui vont être calés aussi. Il y a ça dans la nouvelle mesure.
S'il y a un voyant sur le tableau de bord, s'il ne fonctionne pas, ça ne va pas.
Si il s'allume et ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, ça, le calculateur le sait. Donc, on ne peut pas enlever l'ampoule. C'est des choses qui ne marchent pas. Quoi.
Alors, même avoir si une vieille voiture voyant, qui n'a pas beaucoup de voyants, finalement, ça va devenir avantageux. Quoi.
Et puis c'est des véhicules qui sont hyper simples de conception. Donc. Après, il faut voir ce qu'ils vont nous faire avec les normes pollution, les taxes à la pollution et tous ces trucs-là. Ça, je pense que c'est encore l'usager qui va se retrouver à payer. Mais bon, ça, je pense que Tes auditeurs sont... Il n'y a pas besoin de leur dire, ils sont déjà bien au courant de ce genre de choses.
Tout à l'heure, tu as parlé des castes. Il faudrait qu'ici, sur le plateau de Mulvache, on va à Limoges, par exemple. On va loin, quoi, pour trouver une caste. Et c'est un handicap, quand même.
Bah, c'est un handicap, c'est... Je pense que n'importe qui a besoin de descendre à Limoges pour aller chercher un rétroviseur, il n'est pas enchanté, quoi. S'il a d'autres trucs à faire à Limoges, ça peut être l'occasion, mais s'il y va vraiment que pour ça, c'est quand même c'est pas idéal, quoi. Enfin, moi, je sais que, personnellement, aller à Limoges pour aller chercher un rétro, ça me fait pas rêver, quoi.
Donc vous n'êtes pas dans une logique de pure prestation.
En fait, on s'est aperçu que les gens prenaient malgré tout assez vite le pli d'avoir un garage asso et de s'en servir que et uniquement comme un garage. Et c'est pas du tout la dynamique dans laquelle on a envie d'aller. En fait, nous, on veut un garage participatif, on veut que les gens s'impliquent dans la vie du garage, aussi bien au niveau de la réparation que de la vie même du garage et du développement, en fait, du développement de l'asso, parce que le garage, c'est un super support. Nous, on aimerait bien aussi faire développer, tu vois, d'autres formations, de fédérer un peu d'autres assos, que les gens se responsabilisent. En fait, si on veut arriver à l'autogestion, dans le garage, si tu veux, il y a solidaire, l'idée de la solidarité dans ce projet, il faut qu'il y ait... Nous, on a vraiment envie qu'elle soit réciproque, c'est-à-dire qu'il y ait un échange et que ce soit pas que dans un sens. Je te dis, ça n'a pas été le cas systématiquement l'année dernière, mais c'est quand même un des points sur lequel, au jour d'aujourd'hui, on a envie de travailler. Ouais.
Donc finalement, quelqu'un qui vient avec sa voiture, comme il vient dans un garage classique, qui dit voilà, est-ce que vous pouvez me changer mes freins, combien je vous dois, ça c'est pas un échange qui vous intéresse tellement.
Ah non, pas du tout, non. Non, non, non. Non, bah de toute façon, l'idée, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est ce pan de ce côté prestation, là, on est en train de le mettre vraiment de côté. On a vraiment un cas d'école cette année où on a quelqu'un qui nous dit, sur vraiment une prestation en particulier, bah écoute, vous êtes à peu près au même tarif qu'un autre garage. Et bah du coup, moi, je préfère, plutôt que de venir dans l'atelier faire le truc avec vous et être dans cette démarche-là, pour à peu près le même tarif, je préfère aller dans un garage. Moi, j'ai envie de lui dire, vas-y, hein, t'as pas compris ce vers quoi on a envie d'aller. Donc, c'est libre à toi et nous, ça nous pose pas de soucis, quoi. Mais c'est vraiment pas du tout cette démarche qu'on valorise et, enfin, tu vois... On n'a pas envie d'aller par là, quoi. C'est pas l'idée. C'est pas ça, l'autogestion.
C'était un reportage au garage associatif de Lassel qui se veut espace de vie collective, d'échange, de partage de savoir-faire et d'expérience. Avec Cédric, mécanicien, enregistré au mois de mars. Vous pouvez passer les voir, c'est dans le bourg de Lassel en Corrèze et c'est Fléché. Le garage est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 18h.